7h26. On va parler de vaccins ce matin parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a quelques nouvelles et notre invité va nous éclairer là-dessus. Docteur Calvez, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Bon, depuis hier, il y a quand même, disons, un certain niveau de questions là, qui est soulevé suite aux informations venant d'Israël. On sait qu'Israël a vacciné un pourcentage quand même important de sa population. Et là, il y a des scientifiques qui se demandent, est-ce que la première dose est aussi efficace qu'on pouvait le penser au départ?
Alors, en effet, il faut savoir qu'Israël a vacciné 3 millions de personnes à date. Ils ont donné une deuxième dose à 600 000 personnes. Et donc, finalement, ce sont des vraies données dans la vraie vie. Et c'était un peu l'objectif d'une campagne de vaccination ultra rapide et ultra efficace. Et qu'est-ce que ça nous a montré? Ça nous a montré qu'après la première dose, donc 14 jours après la première dose, l'efficacité globale, et puis on peut discuter des chiffres ici et là, mais tourne autour de 33%. Donc ça, c'est le premier point. Premier point, l'étude de Pfizer initiale montrait environ 50%, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle cet intervalle de confiance, puis je ne veux pas rentrer trop dans les détails trop techniques, mais ça, c'est comme les sondages, vous savez, quand on dit 19 fois sur 20, c'est en réalité, c'est entre quelle fourchette ça allait se situer, et 33%, c'est dans la fourchette. Alors, ce que ça dit, c'est que la première dose protège, mais n'est pas aussi protectrice qu'on pense. L'autre chose qu'on a appris d'Israël, c'est que la deuxième dose augmente le nombre d'anticorps de 6 à 20 fois. Donc, quand on reçoit la deuxième dose, la quantité d'anticorps qu'on a dans le système est augmentée de façon très, très importante. Et ce qu'on apprend aussi aujourd'hui en Israël, c'est que pour la première fois, le taux de reproduction du virus, qu'on appelle le R0, est tombé en bas de 1 aujourd'hui, c'est-à-dire que la campagne de vaccination massive qui a eu lieu commence à avoir un impact sur la population. Et sans vouloir rentrer trop dans les détails, parce que ça devient des données épidémiologiques propres à Israël, mais si on regarde la population générale et on exclut certains groupes de la population israélienne, on voit que l'efficacité du vaccin après la deuxième dose commence à avoir un impact important. Donc ce qu'on apprend, c'est que la première dose est efficace, mais seulement à 33%, que la deuxième dose stimule l'immunité pour augmenter la quantité d'anticorps de façon importante, et ils ont respecté de façon très stricte les durées d'administration entre les deux doses, à savoir 21 jours. Donc, ça montre qu'on ne peut pas étendre et éloigner trop le temps entre les deux doses.
Bon, alors, c'est évidemment la question que j'allais vous poser quand on a vu la stratégie de Québec qui est de dire une première dose au plus de citoyens possible. Et dans le temps, là, on disait 42 à 90 jours pour la deuxième. L'expérience en Israël montre qu'il ne faut pas trop tarder avant de donner la deuxième, là.
Tout à fait. Alors, au Québec, 42 jours, ce serait tirer l'élastique à son maximum. Au-delà de ça, on rentre vraiment dans une expérimentation avec quasiment pas de données. Et on risque à ce moment-là de devoir faire une recampagne de vaccination, c'est-à-dire une fois qu'on aura des vaccins en quantité importante et suffisante, il faudra possiblement revacciner tout le monde de façon adéquate, c'est-à-dire tous les gens qui ont eu leur première dose maintenant devront recevoir une première et une deuxième dose possiblement, parce qu'on ne connaîtra pas la protection à long terme. Et si on veut sortir du carcan de la pandémie, on n'a pas beaucoup de choix actuellement que d'aller dans une direction comme ça.
Et si on prend ça avec un peu de recul, Dr Weiss, il faut quand même se dire qu'on ne pensait pas avoir un vaccin ou deux vaccins ou trois vaccins aussi rapidement, là. C'est-à-dire que, je me souviens, on en a parlé, vous et moi, quelques reprises. On disait, peut-être au printemps, ça va prendre un an et un peu plus. Les vaccins sont arrivés rapidement. La première dose n'est peut-être pas aussi efficace qu'on pensait, mais il y a en même temps un protocole à suivre, là.
Tout à fait. Et puis, c'est déjà un exploit scientifique et technologique d'avoir eu des vaccins en aussi peu de temps. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Donc, je pense que ça, il faut quand même le souligner. Vous avez tout à fait raison de dire on n'aurait peut-être pas eu un vaccin il y a 6 mois. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'une maladie où personne ne connaissait quasiment au mois de décembre 2019. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a réussi à avoir un vaccin très rapidement qui est efficace, qui fonctionne. Parce qu'on va voir que ce vaccin-là va avoir un impact important sur une population lorsqu'il est donné rapidement. Il ne faut pas oublier qu'il y a une autre donnée qui est en train de se rajouter actuellement, c'est que les variants, et puis il y en a plusieurs, il y a des variants brésiliens, il y en a un sud-africains, et il y en a un aussi évidemment britannique, mais il ne faut pas oublier que tous ces variants-là commencent à jouer un rôle plus important dans certains pays et sans prendre le dessus, et donc plus vite on va vacciner, et mieux ça va être. Et l'autre chose qu'on va, il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'à date, il y a très très peu, je dirais en termes de pays, donc il y a une très petite partie de l'humanité qui a accès au vaccin. Il y a énormément de pays qui n'ont pas de campagne de vaccination, pas de vaccin. Donc, ce sont des réservoirs potentiels pour le coronavirus. Et là, je donne l'exemple de deux pays, l'Afrique du Sud et le Brésil, qui sont, on va dire, des pays qui ont une certaine capacité, si vous voulez, en termes de santé comparée à leurs voisins. Donc, ils sont capables de surveiller certaines choses. D'un autre côté, il y a des populations très défavorisées dans ces pays-là. Et c'est là qui est une espèce, si vous voulez, de bouillon de culture pour que ces variants de virus émergent et qui peuvent être éventuellement plus problématiques si, à un moment donné, ils devenaient très, très changeants et que les vaccins perdraient un peu de leur efficacité. C'est-à-dire, on pourrait arranger et, si vous voulez, réaiguiser les vaccins, mais ça prendrait encore du temps. Donc, il y a aussi le fait qu'on est là avec une bataille de longue haleine, pas tellement pour le Québec ou le Canada à cette étape-ci, parce que on peut se projeter, disons, dans 8-9 mois, et disons qu'à ce moment-là, une grande partie du Québec, je l'espère, sera vaccinée. On pourra dire, ben, on est sorti un petit peu de notre carcan de pandémie, mais on ne sera pas sorti du carcan pandémie à l'échelle planétaire. Et là, il va falloir que les gens fassent attention lorsqu'ils vont aller en voyage, lorsqu'ils vont se promener, de ne pas ramener des variants potentiels qui pourraient réallumer le feu à l'intérieur du Québec. Donc, il y aura à regarder l'aspect, si vous voulez, du Canada, l'aspect de l'Amérique du Nord, puis après ça, l'aspect de nous vis-à-vis du reste du monde. Mais c'est clair que les vaccins, c'est notre seule issue de sortie rapide, entre guillemets, de la pandémie.
Bon, justement, Dr Weiss, quand on parle des variants, il y a tout un débat actuellement sur les voyages qui sont qualifiés de non essentiels. Il faudrait déterminer ce que c'est précisément, mais les deux premiers ministres nous disent de ne pas voyager. Hier, j'ai eu une entrevue avec le ministre, M. Duclos, du fédéral, qui est le vice-président du comité COVID, et qui dit, vous savez, oui, c'est préférable de ne pas voyager, mais en même temps, actuellement, il n'y a pas beaucoup de cas de COVID qui arrivent de l'étranger. C'est 0,1%, c'est pratiquement rien. Alors moi, je me dis, mais si c'est rien, pourquoi on dit aux gens de ne pas voyager? Alors que vous me dites ce matin, avec les variants, ça peut devenir un problème.
Oui, tout à fait. D'abord, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres. Il faut voir comment les chiffres, on joue parfois avec les chiffres. Vous savez, au Canada, ce qui est arrivé, c'est qu'au mois, on va dire, de mars 2020, avril 2020, quasiment tous les cas revenaient des voyages. Alors, si depuis le temps, vous rajoutez tous les cas associés aux voyages, à tous les cas qu'on a eus au Canada, évidemment, on les a dilués et ça peut faire de moins en moins. Mais c'est une fausse réalité parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui reviennent de voyage et qui réintroduisent le virus dans notre environnement. Et on n'a pas besoin, à l'étape actuelle, même si les voyageurs ne représentaient que 15 ou 20% des cas nouveaux, on n'a pas besoin de ce genre de rajout au système. Le deuxième point, c'est que les voyageurs à l'étranger peuvent ramener ces variants. Et puis, à ce moment-là, on sait que certains d'entre eux se transmettent beaucoup plus rapidement. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé justement en Israël, où ils ont pu démontrer cet aspect-là, avec le fait que, par exemple, le variant britannique pourrait représenter jusqu'à 30% des nouveaux cas et des nouvelles infections, qui se propagent beaucoup plus vite dans certains groupes. Donc, là encore, c'est vraiment pas le temps de dire que les voyages ne sont pas importants. C'est tellement important que même le gouvernement fédéral, à un moment donné, nous a dit qu'on ne voyageait plus d'Angleterre quand le variant a commencé à émerger du Royaume-Uni. Et on se rappelle qu'au mois de mars, avril, mai 2020, les voyages dits non essentiels étaient vraiment fermés et la majorité des frontières étaient fermées. Il y a des pays aussi qui ont beaucoup limité l'aspect des voyages, comme par exemple l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et qui ont très bien fait. Alors, si on doit vraiment vouloir garder les frontières ouvertes, à mon sens, il faudrait le faire avec, je dirais, une structure un peu néo-zélandaise, c'est-à-dire que vous arrivez, on vous teste ici au Canada avec des tests rapides à l'aéroport en descendant de l'avion. Si vous êtes négatif, vous allez en quarantaine dans des endroits où vous serez surveillé. Et si vous êtes positif, vous devriez être encore plus surveillé. Et puis là, il y a certainement un dépistage à faire au niveau de l'avion. Parce que quand c'est des voyages qui sont, comme on dit, non essentiels, je ne vois pas le bénéfice qu'on a en termes de société à laisser continuer ça, alors que d'un autre côté, on ferme l'économie, on est dans un marasme économique, les enfants ont de la difficulté à aller à l'école, on n'est pas capable de faire ce qu'on veut faire au Québec dans notre vie de tous les jours. Donc, à un moment donné, pour l'immense majorité des Québécois qui se sacrifient tous les jours de toutes les sortes de façons, et je parle vraiment de toute la population, des plus jeunes aux plus vieux, je pense que c'est comme un peu un effort qu'on ne reconnaît pas en laissant les gens voyager à l'extérieur du pays, quand ce n'est pas quelque chose d'absolument essentiel.
Bon, quelques questions en terminant. D'abord, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent de voir autant de cas dans les hôpitaux. Il y a Québec où il y a beaucoup d'employés, du monde du personnel. Et là, on se dit, mais comment ça se fait qu'il y a autant de cas à l'intérieur des hôpitaux? On comprend qu'il y a des patients COVID, mais on se dit, les gens sont protégés, les gens ont de l'équipement, ont des protocoles.
Oui. Alors, en théorie, les gens sont protégés. Souvent, les gens, ils ne l'attrapent pas forcément à l'hôpital. Vous savez, l'hôpital, c'est l'endroit où, habituellement, si vous respectez toutes les mesures, vous avez le plus de chances d'être protégé. Donc, il est fort probable que ces gens-là vont l'attraper à l'extérieur de l'hôpital et ils vont l'amener à l'hôpital. Donc, ça, c'est la première chose. Il a fallu aussi resserrer certaines affaires par rapport, je vous dirais, au comportement des fois de certains employés de la santé qui se protégeaient toute la journée, mais qui allaient dîner ensemble ou qui allaient fumer ensemble à l'extérieur de l'hôpital. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut favoriser la transmission du virus. Moi, je vous dirais que dans beaucoup de cas, la transmission se fait souvent à l'extérieur du milieu de la santé, mais qu'après ça, la transmission peut se faire parce qu'il y a des moments où il y a des coupures dans les mesures, que ce soit pour aller dîner ou pour aller fumer ou pour aller prendre une pause ensemble, où on décourage ça fortement, mais on ne peut pas faire la police de façon absolue et continuelle. D'où l'importance, encore une fois, d'aller vacciner les travailleurs de la santé le plus vite possible avec les deux doses nécessaires pour justement diminuer cette cassure au niveau du système de santé et ne pas avoir de manque de personnel.
D'où l'importance que les travailleurs de la santé acceptent de se faire vacciner aussi, là.
Tout à fait. Et puis là, je pense qu'évidemment, ce n'est pas une vaccination obligatoire.
Non.
Mais c'est quand même, on s'entend que ne pas vouloir se faire vacciner, d'abord, je pense que pour son propre bien-être, ça vaut largement la peine. C'est quand même une maladie qui peut être sévère et à risque. On a vu malheureusement des travailleurs de la santé décédés. Alors, je ne comprends pas comment des travailleurs de la santé ne veulent pas se faire vacciner. Je vous dirais par contre que pour certains groupes, on voit que pour les médecins, les pharmaciens, pour l'immense majorité des infirmières, je vois que les taux, je vous dirais, d'acceptation du vaccin sont quand même très, très élevés. Même dans les soins aigus, je vous dirais, les taux d'acceptation sont meilleurs. Le problème semble plus au niveau des centres hospitaliers de longue durée, des soins chroniques, où là, il semble y avoir moins d'acceptation du vaccin de façon générale.
OK. Dernière question qui revient très souvent des gens qui m'écrivent en disant « J'ai eu la COVID, donc j'ai eu quelques symptômes plus ou moins sérieux. Je me sens mieux maintenant. Est-ce que j'ai besoin quand même de me faire vacciner? »
Alors, la réponse est oui, très rapidement, parce que votre protection due au virus, entre guillemets, sauvage, n'est pas très, très longue. Alors, ces gens-là, on peut attendre quelques mois, c'est clair, parce qu'ils sont peut-être pas priorisés, dans le sens qu'ils ont une certaine protection du fait d'avoir eu la COVID, mais on perd l'immunité au bout d'un certain nombre de mois. Il peut y avoir aussi l'arrivée de variants qui ferait que le virus aurait tellement changé que votre immunité ne serait plus tout à fait la même. Donc, même si vous avez fait la COVID, oui, ça, vous pouvez vous faire vacciner, vous devez vous faire vacciner quand viendra votre tour. La seule chose qu'on a remarqué chez certains patients qui ont eu la COVID et qui se sont fait vacciner, ils ont eu un peu plus d'effets secondaires et jusqu'à un certain point, je vous dirais, c'est bien. Et quand j'ai des effets secondaires, c'est rien de grave. C'est que les gens ont eu des douleurs musculaires, se sont sentis plus fatigués pendant quelques jours. C'est parce qu'en réalité, peut-être pour eux, c'est comme si on leur donnait leur deuxième dose. Vous voyez un peu dans le sens que leur première dose a été la vraie infection, puis là, ils ont une espèce de dose, on va dire, booster qui va stimuler leur système immunitaire. Mais oui, ces gens-là devraient être vaccinés.
Merci beaucoup, Dr. Weiss. Bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir, Dr. Carl Weiss, qui est microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal. Je reviens sur les voyages. À la même heure, hier, on parlait avec le ministre Duclos. Et je vais être clair là-dessus ce matin, là. Je pense que le Dr. Weiss a été très précis. Le problème, ce sont les variants. La COVID en tant que telle, mais les différentes transformation de ce virus. Premier point. Le deuxième point, là, il faut de la cohérence. Les deux premiers ministres, M. Legault, M. Trudeau, nous demandent de ne pas voyager pour des raisons de santé publique. M. Duclos nous a dit hier, il n'y a rien là avec la COVID dans le sens où il y a peu de cas de voyage à l'étranger. Les données sont contestables. Alors, s'il y a peu de cas, pourquoi est-ce qu'on nous demande de ne pas voyager? Dans le fond, on est face à deux réalités. La première, comment on empêche les vols non essentiels? Et sincèrement, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est une gymnastique. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? T'annules strictement les vols non lisés. Est-ce que les gens vont pouvoir en acheter en ligne, partir dans une ville en disant c'est essentiel? Puis comment tu... sais, déjà, c'est compliqué de gérer certaines consignes. Imaginez celle-là. Mais on sait que le système de surveillance, c'est une joke. C'est une farce. Un appel, deux, trois visites. On attrape un quand quelqu'un dénonce. Alors, formule Nouvelle-Zélande, qui est très dure, là, c'est tu t'en vas 14 jours, puis c'est un endroit qu'on surveille. Est-ce que vous êtes prêt à ça pour ultimement voyager? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Et là, les rumeurs laissent entendre qu'Ottawa va devoir statuer dans un sens ou dans l'autre. Puis là, il y a le point de presse cet après-midi. C'est eux qui vont retaper sur le clou sur cette question-là. Il est 7h41.